Innocent Olenga pour le journal.
Bienvenue à cette édition de la mi-journée, mais tout d'abord les titres. Faux et archi-faux, c'est les démentis de Pierre Paye-Paye. La Codeco n'a jamais signé un quelconque accord avec l'une ou l'autre des deux plateformes devant soutenir les candidats au second tour de la présidentielle. Pour l'heure, la coalition des démocrates congolais est neutre, affirme l'intéressé. Oponi Bamama Otongi Mboka, tel est le slogan adopté par toutes les femmes candidates aux législatives provinciales en Ituri. Ces femmes candidates décident de s'organiser en synergie pendant toute la période de la campagne dans le but de gagner plus de sièges possible au sein de la future assemblée provinciale de l'Ituri. À Kananga, au Kasaï occidental, les médias évoluant dans cette province sont appelés à s'impliquer dans la lutte contre la malaria. C'est ce qui ressort de la matinée d'information tenue hier par le programme national de lutte contre le paludisme, une maladie qui, selon ce programme, a un taux de mortalité très élevé. Voilà tout pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs, commençons ce journal par ce démenti de la CODECO, coalition des démocrates congolais, qui dit n'avoir jamais signé une quelconque alliance ou accord avec l'un des deux candidats président de la République. Et pourtant, des bruits de plus en plus persistants relatifs au rapprochement de ces groupements politiques avec l'une des deux plateformes devant soutenir Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba au second tour de la présidentielle, sur qu'il est ces derniers jours à Kinshasa. Il n'en est rien du tout, affirme Pierre Paye-Paye. Pour l'instant, la CODECO a plutôt opté pour la neutralité, ajoute le président de la CODECO. On l'écoute, il est jeune par Pélé-Kipe Lamondo.
Je voudrais apporter le démenti le plus formel. Nous n'avons jamais signé une alliance, ni avec l'AMP, ni avec l'Union pour la Nation. Surtout que le président de la CODECO que je suis n'a jamais reçu mandat du collège des présidents dans ce sens. Cela doit être clair et c'est la troisième fois que je l'ai dit, mais on continue toujours à affirmer que j'ai signé une alliance.
Alors, à quand la décision?
Est-ce qu'il n'existe pas une neutralité positive dans ce pays? Pourquoi on doit être pour l'un ou pour l'autre? La CODECO, jusqu'à présent, elle a opté pour la neutralité et peut-être demain elle changera. Si elle change, nous opterons pour l'un ou l'autre des deux candidats. Pour le moment, ce n'est pas encore fait. Nos militants qui sont à l'intérieur du pays essayent de comprendre qu'il y a une certaine manipulation de l'information que nous ne pouvons pas admettre.
Du côté du Rassemblement congolais pour la démocratie, parti cher à Zarias Roubérois Manioua, on apprend que les choses s'accélèrent. Très bientôt, le RCD va se prononcer avec qui il compte composer au Parlement et surtout qui des deux candidats il va soutenir au second tour de la présidentielle. Azarias Roubérois Manioua, président du RCD et vice-président de la République en charge de la Commission politique défense et sécurité, au micro de Rosalie Zawadi Agoma.
On va choisir sans sentiment. Certes que parmi les deux candidats, il n'y a pas de candidat qui nous égale, qui équivaut à ce que nous représentons, et donc nous choisirons la personne qui peut faire mieux que l'autre, mais également qui peut donner plus au parti par rapport à ses intérêts. Nous sommes en train d'aller vers la décision, ça ne va plus traîner parce que nous devons décider avant la campagne présidentielle. Pour ce qui me revient, je vais certainement poursuivre la politique et préparer l'alternative. Il n'y a pas de doute que quel que soit ce qu'ils vont faire, la population, après 5 années, se rendra compte que c'est nous qui méritions et donc elle nous fera justice. Il n'y a pas de doute à cela.
S'agissant précisément de la situation sécuritaire du pays, à quelques semaines de la tenue du second tour de la présidentielle et des élections provinciales, M. Roubérois a affirmé à l'issue d'une tournée effectuée dans les provinces de l'Est du pays que rien ne pourra perturber ces rendez-vous. À ceux qui pensent qu'il faut utiliser des moyens musclés contre les groupes armés basés dans ces provinces, Azarias Roubérois estime que la force n'est pas l'unique moyen pour résoudre des problèmes. Rappelons que le numéro 1 de la Commission politique défense et sécurité du gouvernement s'est rendu à Bunia, Bukavu et enfin Goma. Oponi Bamama Otongi Mboka, tel est le slogan adopté par toutes les femmes candidates aux législatives provinciales en Ituri. Ces femmes candidates décident de s'organiser en synergie pendant toute la période de campagne dans le but de gagner plus de sièges possibles au sein de la future assemblée provinciale de l'Ituri. Certaines parmi elles se sont réunies hier vendredi autour des caucus des femmes, une plateforme qui regroupe plusieurs organisations féminines en Ituri. De Bunia, correspondance de Suzanne Nzobo.
ces femmes s'inspirent de l'échec connu en Ituri par les femmes candidates aux législatives nationales du 30 juillet dernier et au cours desquelles une seule femme était élue. Pour éviter de connaître la même situation pour les législatives provinciales, les organisations féminines de la société civile réunies au sein du caucus des femmes de l'Ituri décident d'encadrer toutes les 44 femmes candidates à la députation provinciale pendant toute la période des campagnes. Des stratégies communes sont arrêtées à travers l'initiative Oponi Mama Otongi Mboka avec pour objectif de mettre toutes les chances du côté des femmes. Madame Marie-Joséphine Ezoko, secrétaire du caucus des femmes de l'Ituri, nous révèle en peu de mots une partie du contenu de ces stratégies.
Les mamans doivent d'abord se présenter physiquement sur terrain. Elles ne doivent pas y faire des promesses qu'il ne faut pas réaliser. Par exemple, je vais construire des maisons. Sensibiliser les mamans à faire étudier les filles. Ces filles seront capables de réaliser des choses dans la société. Nous avons aussi demandé à ces mamans de présenter leurs photos et leurs numéros aux mamans.
Un séminaire sera organisé par le caucus des femmes la semaine prochaine et au cours de ce séminaire, toutes les femmes candidates à la députation provinciale en Ituri apprendront les nouvelles stratégies dont elles pourront se servir pour bien mener leur campagne électorale. Bounia, Suzanne Zobo, Radio Kapi.
Toujours dans ce chapitre des élections, le bureau de la CI Katanga a procédé hier vendredi après-midi à l'incinération de près de 40 tonnes de matériels électoraux non utilisés lors des scrutins passés. Il s'agit des bulletins de vote, des isoloirs, des urnes, des fiches, etc. L'opération s'est déroulée en présence des délégués des consuls généraux en poste à Lubumbashi, des partis politiques, de la police, de l'armée et de la MONUC. Pour les coordinateurs de la CI, il fallait procéder à cette incinération car chaque scrutin a son matériel et qu'il fallait libérer les entrepôts. Albert Kissimba au micro de Denise Maéo.
C'est d'abord des fiches qu'on n'a pas utilisées pendant l'identification. Ça nous fait à peu près 3 tonnes. Il y a des bulletins de vote que nous n'avons pas utilisés pendant le référendum et pendant les deux scrutins combinés, les législatives et les présidentielles du 30. Donc c'est pour ça que nous avons pris l'idée que nous devons les incinérer pour essayer et de libérer les entrepôts afin que ça ne soit pas dans nos bureaux pour que les autres bulletins qui sont en train de venir restent dehors. Alors la hiérarchie a demandé à ce qu'on incinère tout ce qui n'avait pas été utilisé. Et qu'on incinère aussi les fiches d'identification FO2 qu'on a appelées, que nous n'avons pas utilisées pendant l'identification et l'enrôlement de l'année passée. Incinérées. Donc ça nous fait à peu près 39 à 40 tonnes qu'on est en train d'incinérer.
On reste dans la même province pour évoquer ces retours massifs de la population dans la localité de Kilumbe, en territoire de Bukama. C'est le constat fait hier par une délégation des agences humanitaires en mission dans ces territoires à la fin de la semaine dernière. Selon le chef de la division des affaires civiles de la MONUC, ces populations retournent dans le vide. Aucune structure n'existe. Les cours n'ont pas repris faute des bâtiments. Comme si cela ne suffisait pas, cette population est pour le moment confrontée aux épidémies. Une assistance s'impose au vu des réalités observées sur le terrain. Marco Donati, chef des affaires civiles de la MONUC, est au micro de Denise Maéo.
Il y a un problème d'approvisionnement d'eau. Les activités agricoles recommencent, mais évidemment ont besoin d'être appuyées. La pêche aussi a recommencé, mais malheureusement, pour le moment, on utilise les moustiquaires plutôt que les filets de pêche. La situation est qu'il y a sûrement du progrès, il y a la volonté des gens de recommencer leur vie, et donc ça c'est positif. C'est clair qu'ils auront aussi besoin d'être appuyés dans cela. Il y a une épidémie de rougeole, il y a une campagne de vaccination accélérée qui a été lancée avec l'appui bon, évidemment des structures de santé qui opèrent dans la zone. Il y a aussi du choléra, même si c'est pas dans la phase critique, mais on craint que ça puisse le devenir. Là, c'est clair que les besoins de la population sont quand même plus importants de ce qu'on peut offrir à ce temps-là.
Rappelons que le village de Kilumbe a été le théâtre des affrontements répétés des combattants Maïmaï l'année dernière, ce qui a provoqué la fuite des habitants vers d'autres localités du territoire de Bukama. On reste encore une fois dans la province d'Ikatanga, dans sa partie nord-est, où les agents de la Société nationale d'électricité sont à leur troisième jour des grèves à Kalemi. Ils réclament les arriérés des salaires de plusieurs mois. La direction du district de la SNEL Katanga, confrontée aux difficultés de recouvrement de ses factures, dit avoir ouvert des négociations avec les grévistes. Françoise Avemibé pour les détails.
7 mois d'arriérés de salaire de l'année 1997, la rétrocession de salaire de mars 2006 depuis Kinshasa, la solde de juillet et la totalité du mois d'août dernier, voilà l'ensemble des revendications que formulent les agents de la SNEL. Pour les manifester, tous les services sont depuis mercredi paralysés et mis aux arrêts. Toutefois, les grévistes laissent certains agents assurer un service minimum.
Nous avons remis l'électricité à l'Interlac à la demande de notre direction de Kinshasa et cela avec une promesse de régler la situation avant le 5 septembre. Tout n'est pas clair. Comment comprendre qu'un salarié ne puisse toucher son salaire depuis 1997? La direction de Kinshasa continue à nous mentir. Nous arrêtons de travailler jusqu'au jour où l'on trouvera une solution à nos réclamations.
Du côté de la direction de la SNEL, le chef de district qui déplore l'absence des fonds poursuit des négociations avec les grévistes. Le chef Baloukko Salomon indique en même temps que la SNEL est aujourd'hui confrontée aux sérieuses difficultés. La plupart des entreprises clients de la SNEL sont aujourd'hui en faillite et ne savent pas payer leurs factures. Pour solutionner la crise, il compte sur la facturation de la société Interlac qui à elle seule utilise 5 des 6 mégawatts que produit la SNEL. Le chef des districts de Baloukko Salomon.
Nous sommes en pourparlers avec Interlac. Actuellement, il est sous-facturé. Le directeur général est en train de prendre, de trouver des solutions à leurs problèmes.
Les grévistes menacent de cesser totalement toutes leurs prestations en cas d'échec des négociations. Une situation qui risque de peser lourd sur la vie de la communauté qui consomme l'énergie de la SNEL. François-Xavier Mibé, Radio Kapi, Kalemie.
À Kananga, au Kasaï occidental, les médias évoluant dans cette province sont appelés à s'impliquer dans la lutte contre la malaria. C'est ce qui ressort de la note d'information tenue hier, plutôt jeudi, par les programmes nationaux de lutte contre le paludisme. Une maladie qui, selon ces programmes, a un taux de mortalité très élevé que les autres. Marie-Chantal Lumba.
Selon l'inspection provinciale médicale, les médias s'intéressent peu à la vulgarisation des stratégies de lutte contre le paludisme, une maladie qui est considérée comme un problème de santé publique. Docteur Jean-Constantin Canoa constate que les médias focalisent souvent leurs interventions sur les autres maladies comme le sida ou les épidémies de rougeole ou de choléra. Pourtant, des statistiques au programme national de lutte contre le paludisme prouvent que la malaria tue plus que d'autres maladies en RDC. Chaque 30 secondes, une personne meurt du paludisme, dont 80% hors des structures de santé. À l'issue de cette matinée d'information, les médias ont déclaré avoir renforcé leurs connaissances sur la lutte contre le paludisme, notamment dans la prévention de cette maladie par l'assainissement du milieu, l'utilisation correcte de la moustiquaire, ainsi que la prise des médicaments préventifs sur prescription du médecin. Au cours de cette rencontre, le Programme national de lutte contre le paludisme a insisté sur la combinaison de l'artesunate amodiaquine comme traitement de choix du paludisme simple. De Kalanga, Marie-Chantal Lumba, Radio Kapi.
Près de 60 millions de francs congolais volatilisés de la caisse du ministère des Travaux publics et infrastructures. Dans la nuit du 27 septembre, des hommes ont cambriolé la caisse du ministère. Pour le ministre José Makila, il s'agit des policiers commis à la garde du ministère qui ont commis ces forfaits. Je vous propose d'écouter José Makila, ministre des Travaux publics et infrastructures, au micro de Jean-Blaise Ntamboué.
C'est le conseil financier qui est chargé de ce pays. Et il se fait que malheureusement, ce jour-là, le comptable a été servi en retard au niveau de la Rosbank. Il est arrivé au cabinet, me dira-t-on, vers 16h. Il devait recompter le billet avec la caissière qui, elle, devait s'en charger à garder ses billets jusqu'au lendemain de l'opération. Et ils sont restés à base. L'opération s'est déroulée pendant presque 2 heures. Ils se sont quittés au niveau du cabinet à 18h. Et là, le conseiller financier a pris le soin de nous avertir, le vice-ministre et moi-même. Le lendemain, il devait normalement procéder à donner à chaque ministre son dû. Et c'est la nuit même, que ces policiers, eux, qui étaient commis à la garde du bâtiment, ont commis le forfait. À 8h du matin, le directeur du cabinet adjoint m'appela pour dire que, écoutez, monsieur le ministre, on a connu un cas de vol au cabinet.
Première collation des licenciés à l'université de Kindu au Maniema. Il y a eu au total 4 finalistes, dont un en droit économique et 3 en droit public. Cette collation intervient 2 ans après que le centre universitaire de Kindu, extension de Lubumbashi, soit devenu une université indépendante. Pour les lauréats, la cérémonie est pleine de signification pour leur vie. Témoignage de Gustave Magou Watebazi, nouveau lauréat au micro de Mathieu Ilunga Chambui.
La signification que nous devons apporter à la collation des grades académiques de l'année au sein de l'UNIKI, qui est la toute première, c'est une merveilleuse cérémonie qui marque l'accréditation de notre jeune université au même titre que les autres. Par ce fait, nous sommes devenus des licenciés en droit au même rang que les autres qui nous ont précédés. C'est l'avenir et le métier nous dira raison. Un meilleur rendement. Voilà pourquoi nous vous disons que nous avons les diplômes. Nous venons de recevoir des diplômes comme tous les étudiants de la République démocratique du Congo, de toutes ces universités, mais notre compétence va se démarquer plus que les autres qui ont étudié dans les meilleures universités de ce Congo qui avaient précédé l'UNIKI, nous avions dit.
Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci. Okapi.